un podcast France Culture.
Les artistes au service de la Terre. En cette nouvelle année que nous vous souhaitons d'ailleurs à toutes et à tous douce et heureuse, plongeons dans cet univers de la création, celui d'hommes et de femmes, qui précocement dans les siècles passés ou plus récemment ont sensibilisé leur public et joué consciemment ou inconsciemment un rôle à travers leurs œuvres dans ce monde en ébullition. Quel dialogue entre le vivant et le non-vivant se niche dans ces réalisations d'artistes? Quelles histoires s'y écrivent, séduisent et interpelle les consciences? En un mot, que fait le monde de l'art pour le vivant et la planète? Nous en discutons ce soir en direct sur France Culture avec nos trois invités que je suis ravie d'accueillir. À mes côtés, Michel Bassompierre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes artiste, sculpteur animalier, connu pour vos œuvres colossales. Et on peut mentionner d'emblée le beau livre qui raconte votre vie, votre œuvre, Michel Bassompierre Monographie, un livre édité chez Albin Michel. À vos côtés, Laurence Bertrand d'Orléac. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne de l'art, professeure des universités à Sciences Po, chercheuse au Centre d'Histoire, directrice de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, auteur notamment du livre « Pour en finir avec la nature morte », un livre paru chez Gallimard, et puis commissaire de l'exposition intitulée « Les choses à voir en ce moment au Louvre jusqu'au 23 janvier ». Et puis Alice Audouin avec nous également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente fondatrice de l'association Art of Change 21, commissaire d'exposition, engagée depuis 17 ans, il faut le préciser, sur ce terrain de l'art contemporain et de l'environnement, et puis consultante en développement durable sur ce secteur. Et puis je précise que dans l'œil du monde planète, c'est le journaliste du quotidien Le Monde, Stéphane Mandard, qui sera au rendez-vous. Il nous parlera de l'interdiction du jetable en vigueur dans les fast-foods et de ce qu'il en est réellement. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, toujours préparé par l'équipe qui m'accompagne, que je salue, et à qui je souhaite une très belle année 2023, Anaï Morales, avec l'appui de Vanessa Chang et des équipes de documentation de Radio France, émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique ce soir, Olivier Arnay.
Cet ours polaire de Michel Bassompierre mesure 4 mètres de long et 2 de haut.
L'objectif, c'est aussi la stratégie, c'est de montrer de l'esthétique, du beau, de l'art animalier, mais que les gens rentrent dans la vie quand même.
Il est donc décidé de placer l'œuvre près de la départementale pour attirer l'œil. Face à l'ours de Pompon, la fraternité entre les deux œuvres et les deux artistes est évidente. Même sens du mouvement, même simplicité, même séduction.
Ce qui me plaît, c'est toute cette rondeur, cette douceur. Ça nous donne envie de sourire. On ne retrouve pas ça forcément dans Pompon. On trouve le côté épuré, le côté doux, on a envie de caresser, mais alors franchement, Michel Bassompierre, il nous donne le sourire.
Extrait d'un reportage diffusé sur France 3 le 19 août 2022. Michel Bassompierre, donner le sourire, c'est votre objectif?
Oui, peut-être, je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Peut-être que je cache mon humour sous un œil un peu tristounet, mais non, toute mon humour est intérieur. Mais c'est vrai qu'en sculpture, on m'a dit que c'est toujours plein d'humour ce que je fais. Donc peut-être que je représente bien mon frère animal.
Et que ça donne le sourire. En tout cas, on peut dire que vous êtes pionnier dans cette démarche d'être un sculpteur animalier. Un choix iconoclaste, d'ailleurs, quand vous l'avez fait, il faut le dire. Et au-delà d'une passion, on sent en vous une vraie tendresse pour ces grands animaux. Alors, ours, gorilles, chevaux, éléphants, essentiellement, c'est ça?
Oui.
Et qui sont vraiment au cœur de votre travail. Alors, d'où vous vient cette tendresse, quand même?
Ah, je sais. Je pense que c'est depuis tout petit, peut-être même avant d'être né. Non, mon père était scientifique, ma mère était artiste, plasticienne. Donc, je pense qu'ils ont laissé leur enfant dessiner. J'allais au Jardin des Plantes, à Paris. Mon père avait ses entrées au muséum, donc j'en profitais. Et puis, ces animaux, le zoo de Vincennes, ça m'a marqué. J'avais besoin d'extérioriser sur le papier ce que j'avais vu dans les journées.
Et donc là, le muséum Alice Audouin, ça vous inspire, parce que je crois que vous, enfant, je crois que vous avez aussi investi le muséum. Il faut préciser que vous avez un aïeul d'ailleurs qui était naturaliste, hein, Victor Audouin, c'est ça?
Oui, absolument.
Donc c'est une source d'inspiration.
J'ai grandi rue Cuvier avec la vue sur...
Sur le muséum.
Sur le muséum.
Et le jardin des plantes.
Oui.
Alors Michel Bassompierre, est-ce qu'on peut parler d'un dialogue quand même qui se crée entre vous et ce monde animal? On a compris que les courbes étaient toutes en rondeur, tout est en douceur, que ça émerveille, ça sensibilise. Mais est-ce que voilà, ce dialogue-là, vous le ressentez vous-même de façon assez intense au point d'avoir consacré votre vie à ces animaux?
Bon, j'ai choisi certains animaux, je veux pas tous les faire, des animaux qui se prêtent bien à ce que je ressens moi en sculpture, parce que je suis animalier, c'est-à-dire que gamin déjà, j'allais passer des nuits en forêt quelquefois avec mes frères, pour voir les animaux, la vie nocturne, et puis après, ces animaux qui s'endormaient quand le jour se levait, avec d'autres qui se réveillaient, qui pouvaient sortir de leur cachette, quoi. Donc, pour moi, cet animal, mon frère animal, comme je dis, qui est mon égal, il m'a toujours intéressé. Par contre, j'ai choisi effectivement des animaux. On dit pourquoi ces animaux-là? Parce qu'ils sont très ronds, et la sculpture, c'est la rondeur. Ça évite, en quelque sorte, d'avoir une ombre qui vienne heurter la lumière, donc tout est coulé, tout est doux. Donc j'ai pris des animaux très ronds, très puissants, en même temps, derrière la rondeur, il y a une certaine puissance. Mais sous la rondeur, il faut un dessin très précis. Sinon, au lieu d'être ronds, ils deviennent mous, ces animaux. Enfin, ces sculptures deviendraient molles. Donc pour moi, le dessin est la première chose pour un sculpteur.
Ce qui n'était pas évident hein, quand vous étiez à l'école des Beaux-Arts, vous avez suivi votre voie et en cela peut-être que vous avez suivi aussi le conseil d'un maître à l'école des Beaux-Arts de Rouen qui était René Leleu. Il vous avait dit, je crois, d'être sincère avec vous-même. Donc vous n'avez pas cherché forcément à être dans l'air du temps. Et d'ailleurs vous racontez hein, votre travail de fin d'études à l'école des Beaux-Arts. Vous avez présenté deux ours, un éléphant et puis franchement ils ont été fraîchement accueillis, je crois. Mais vous avez vraiment, on peut dire initier quelque chose?
Quand je suis sorti des Beaux-Arts, un petit peu écœuré de ce qui m'attendait, d'après ce que m'avaient dit les profs, j'avais choisi une mauvaise voie, la voie de la vérité, enfin, ce qui leur paraissait, eux, la voie de la vérité, quoi. Et donc, je me suis dit, j'allais quand même, comme je suis têtu, je disais, je suis pas un mouton, je suis pas un loup, je suis une chèvre. Donc j'irai prendre tout seul ma route. Et puis j'ai continué à travailler des animaux, l'art figuratif, parce que pour moi, je le sentais comme ça. Je n'ai rien contre l'art abstrait, mais pour moi, pour être un bon abstrait, il faut déjà être passé par le figuratif, ce qui donne le sens de la composition. Une chose qui me paraît très importante, aussi bien en peinture qu'en sculpture, qu'en musique, qu'en tout.
Laurence Bertrand d'Orléac, l'animal est un thème récurrent dans l'histoire de l'art. On pense à l'art pariétal, il y a aussi la représentation animale qui devient un genre au XVIIe siècle, qui gagne son autonomie au XIXe siècle grâce au courant naturaliste. En fait, toutes les civilisations se sont emparées de l'animal.
Oui, je suis en train de penser que la première sculpture que l'on connaît, la première sculpture de toute l'humanité, 35 000 ans avant notre ère, c'est un homme-lion, quelques centimètres d'ivoire qui est conservé à Ulm, en Allemagne. Et c'est toujours une sculpture qui m'a fascinée. Dès le départ, en fait, en effet, la représentation porte sur les animaux avant tout et éventuellement, de temps en temps, sur les hommes. Mais très peu, quand on, en tout cas, les restes préhistoriques, disons, portent essentiellement sur... Lévi-Strauss disait le plus autrui des autruis. Cet autre animal qui en même temps appartient à un autre monde et qui est à la fois si proche et différent.
Et donc pour vous, il est plus que jamais urgent de regarder ce monde du vivant non humain. Alors je pense bien sûr à l'exposition, à Les Choses et au livre que vous avez écrit il y a deux ans à peu près, hein, pour en finir avec la nature morte, je crois. Donc, mais qui, voilà, tout est lié. Ces choses, d'ailleurs, c'est vraiment ces natures mortes qui sont pas du tout mortes, quoi. C'est que c'est du vivant, enfin, même s'il y a la vie et mort se mêlent. Mais pour vous, il est urgent de regarder ce monde du vivant non humain. humains différemment dans un monde justement où l'orgueil de l'homme nuit à la planète, hein, production, consommation, prédation.
Oui, je suis heureuse que vous remarquiez que nature morte n'a aucun sens et qu'elle est toujours vivante par définition. Enfin, elle est encore vivante, la nature. Oui, c'est important et c'est un indice, disons, les animaux dans la représentation, y compris contemporaine, les animaux morts. Ça, c'est quelque chose qui existe, qu'on connaît depuis... depuis presque toujours, enfin. Et ça dit quelque chose. Les animaux avaient tendance à attirer plutôt la compassion dans les représentations, disons, depuis la préhistoire. Jusqu'à récemment, ou en 1984, un certain Serrano, Andrea Serrano, un photographe, photographie une cabeça de vaca, une tête de vache. Et pour la première fois dans l'histoire, cette tête de vache, elle nous accuse. Ça, c'est pour moi un moment inouï, c'est-à-dire qu'elle nous réclame des comptes. Et ça passe par le truchement d'un artiste qui nous dit « Attention, là, l'animal, évidemment, n'a plus la même position. Il faut regarder ça, et c'est très frappant. »
Elle demande des comptes parce que la tête est coupée, qu'on sent, qu'on voit bien qu'il y a du sang, hein, au niveau du cou, et il y a cet œil de la vache qui nous défie même, hein. Donc c'est cette façon de dire on les regarde mais ils nous regardent, et que les comptes sont peut-être effectivement au bout de ce regard. Ce qui est intéressant en tout cas, Laurence Bertrand d'Orléac, c'est que dans cette exposition au Louvre, vous mêlez les œuvres anciennes et puis avec des œuvres très contemporaines, ce qui me fait me tourner vers vous, Alice Audouin, et on pourra échanger bien sûr ensemble, mais pour parler justement de cette façon qu'a l'art contemporain de nous montrer aussi aujourd'hui autre chose, un engagement, hein, pour ces espèces animales, cette façon aussi de questionner nos relations avec ce vivant humain, c'est très présent. Un mouvement qui a émergé à quel moment? Est-ce que c'est vraiment cette génération dite climat dont on parle beaucoup plus?
Alors, pour moi, il y a deux niveaux. Il y a le désir de renverser ce qu'on appelle, dans notre jargon, l'arbre phylogénétique, la représentation d'un être humain lié à une évolution des espèces où on est tout en haut d'un arbre et les autres sont en dessous de nous. Il y a plusieurs artistes, d'ailleurs français, Marie-Sara Denis, aussi Fabien Léostic, j'ai eu la chance de les exposer tous les deux, qui proposent chacun deux nouvelles versions. La première propose un temple phylogénétique, c'est-à-dire une vision totalement différente qui montre l'interconnexion des espèces. Et le second utilise l'ADN comme dénominateur commun pour créer aussi, alors là, des chimères et tout un langage. Donc il y a déjà, au-delà d'un animal en particulier, le fait que l'on puisse changer déjà notre place d'espèce parmi les espèces. Et ensuite, vous avez des artistes qui travaillent spécifiquement. Alors, la spécialiste que vous êtes, Aurélie, connaît bien la liste rouge de l'UICN. Par exemple, Michael Wang, qui représente la liste Extinct in the Wild, mais qui va insérer deux espèces qui n'y sont pas, qui en viennent de sortir, qui pourraient y aller, qui interrogent aussi cette classification très particulière. On va avoir des artistes comme Jérémy Gobet qui vont, eux, considérer qu'un rôle d'artiste peut consister à préserver la barrière de corail qui est source justement de nutriments.
Et alors justement...
Et Thomas Saraceno qui coquerait quand même, oui, avec des araignées. Les araignées entrant dans l'atelier de l'artiste au même titre que, oui, l'artiste.
Alors écoutons tout de suite Jérémy Gobet, extrait d'une vidéo diffusée sur France Culture. Ça nous permettra de bien comprendre en quoi cet art anthropocène nous interpelle aujourd'hui.
Je me suis dit, il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a une telle ressemblance entre cette dentelle et ce squelette de corail que je me dis, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette dentelle pour sauver les récifs?
Jérémy Gobet est plasticien. Il a créé une nouvelle forme d'art et cette nouvelle matière que l'on peut tisser pour sauver les coraux.
Les coraux pondent des larves et ces larves vont se refixer à nouveau sur le récif. Sauf que sur 100 larves à peu près, il y en a 30 qui vont effectivement retomber sur le récif et régénérer le tissu vivant du corail. Donc l'idée de la dentelle, c'est de l'utiliser comme un tuteur, comme un substrat, un support qui va aider à capter plus de larves et donner un coup de pouce à la régénération naturelle des récifs. J'aime bien m'inspirer des savoir-faire locaux, des savoir-faire traditionnels. Et j'ai découvert une dentelle qui s'appelle la dentelle au fuseau. Et cette dentelle traditionnelle, qui a plusieurs centaines d'années, a un motif qui s'appelle le point d'esprit. C'est vraiment le motif phare de cette technique. Et ce motif ressemble comme deux gouttes d'eau à un squelette de corail que j'utilisais dans mes œuvres. Donc l'idée avait été vraiment de partir de cette dentelle traditionnelle, mais de l'améliorer aussi au niveau de la fibre. Et donc depuis fin 2017, je teste de nouvelles fibres, jusqu'à aujourd'hui, avec mes partenaires, mes collaborateurs, créer une nouvelle matière. Ensuite, cette matière première, il y a tout un travail de transformation pour arriver à en faire du fil. Et ensuite, ce fil, il faut arriver à le tisser pour en faire de la dentelle.
Les premiers essais faits avec le coton ont fonctionné. Le corail s'est régénéré sur la dentelle.
Voilà l'exemple d'un artiste qui ne se contente pas de dire, de montrer, mais qui agit aussi. Et ses créations peuvent produire une régénération du vivant. C'est fréquent ou alors c'est vraiment un cas ?
Alors Jérémy et moi, il est beaucoup plus jeune que moi, mais c'est une longue histoire parce que je l'ai beaucoup accompagné. Je dirais que ce qui est très particulier dans son cas, c'est qu'il est à la fois allié les dimensions sociales, parce que ça vient aussi de toute une histoire sur l'industrie textile, etc., et l'environnement, mais aussi qu'il a créé un fonds de dotation pour porter voilà ce projet, tout en gardant la production d'œuvres d'art, monumentales, sculptures, etc. Et tout ça absolument sans complexe, c'est-à-dire qu'il est chef d'une fondation, il a créé une entreprise maintenant où il fait des biomatériaux, et pour lui, sa référence, c'est Léonard de Vinci. En se disant, mais finalement, pourquoi l'artiste d'aujourd'hui, dans un monde complexe, ne retrouverait pas justement plusieurs fonctions? Et c'est sûrement le moment lié aux enjeux environnementaux qui peut donner l'opportunité aux artistes de repenser leur rôle.
Michel Bassompierre, même si vous êtes souvent dans votre atelier et puis dans votre bulle quelque part, hein, on a compris que vous étiez bien avec les animaux et la matière et les matières que vous travaillez, est-ce que vous avez quand même senti ce mouvement monter? Et est-ce que finalement cette préoccupation environnementale de la génération climat, mais enfin, là, on fait partie aussi de cette ère de l'Anthropocène, est-ce que ça a notamment changé votre travail et aussi, deuxième question, la place de votre œuvre?
Non, je pense pas que ça ait changé beaucoup mon travail. Par contre, quel plaisir de savoir que je vais pas être tout seul, être conscient du désastre qui est en train de s'installer. Non, je continue, comme je dis, je suis un vieil enfant qui continue à faire ses jouets quand je fais mes sculptures, parce que ça fait, je vais avoir bientôt 75 ans, quelques mois, donc j'ai l'impression que j'ai toujours fait des animaux, j'ai toujours sculpté, toujours fait mon frère animal, et je voyais partout la forêt qui diminuait. Et là, je parlais tout à l'heure d'une forêt où j'allais, près de Rouen, on passait la nuit avec mes frangins. C'était une très grande forêt, on voyait des cerfs, des sangliers, on savait où trouver tel ou tel animal. On allait voir les copains, en quelque sorte. Et ben, toute cette forêt est mitée par des installations, par des lotissements, par des choses comme ça. Et bon, je vais plus là-bas, mais je vois ça sur Internet. Ça fait mal au cœur. J'ai dit, mais on est en train de tout détruire. Et alors là, c'est des gens qui s'installent simplement. Ils n'ont pas le but de détruire. Par contre, ce qui est dramatique, c'est de voir que pour faire de l'argent, on saccage la planète, on saccage la vie. Donc on raccourcit la vie de l'espèce humaine, quoi. C'est triste.
Et du vivant en général, hein, si on doit donner des chiffres, un monde où il ne reste que 3% du vivant sauvage et où on vit la sixième extinction de masse. Donc ces artistes, votre travail, Michel Bassompierre, et puis cette génération, la relève, hein, comme vous dites, racontent des histoires d'impact et de relations avec le vivant. Laurence Bertrand d'Orléac, on le sent hein, dans l'exposition qui a lieu donc au Louvre, Les Choses, c'est que vous avez choisi de mêler à la fois des œuvres anciennes et puis des artistes contemporain, il y a cette prise de conscience ancienne. Alors déjà, on peut préciser, parce qu'on a le sentiment que là, tout vient d'aujourd'hui. C'est pas les mêmes mots qui étaient dans la bouche des artistes, et c'est pas la même façon de retranscrire la prise de conscience. Mais malgré tout, hein, vous mentionnez un texte de Victor Hugo, extrait des Contemplations, par exemple. On sent que les sociétés humaines, industrialisées et prédatrices dès l'époque moderne, elles étaient dénoncées de par le mal qu'elles faisaient quand même à la planète.
Oui, on voit déjà, déjà sous l'Antiquité, il y a une réflexion sur l'animal, enfin, et sur le bien-être, hein, ou sur la maltraitance animale d'ailleurs, hein. Il faut attendre le 19e siècle pour voir se mettre en place vraiment toutes les associations contre la maltraitance animale, les SPA, etc. La réflexion, elle existe depuis très longtemps, sinon depuis toujours, en tout cas depuis très très longtemps, depuis qu'on a des textes. Mais c'est vrai que se mettre en place, disons, ce naturalisme, enfin, au sens où Bruno Latour entendait le naturalisme, avec la période moderne, disons, et en particulier qui s'accélère certainement au XVIIe, XVIIIe siècle surtout, avec cette croyance évidemment que le monde pouvait être à la fois rationalisé, et là il y a une espèce de coupure, en fait, il y a quelque chose de l'ordre d'une coupure, en tout cas chez nous en Europe, disons en Europe occidentale. Et c'est cette coupure que nous ressentons de plus en plus durement. Enfin, c'est cette soi-disant modernité, évidemment, qui nous paraît aujourd'hui dérisoire, parce que qu'est-ce que ça voulait dire, finalement, justement, ces catégories, etc. Elles sont. Et je crois que là, en ce moment, c'est d'ailleurs au moment, justement, le plus crucial et le plus tragique de notre histoire, qui a aussi cette prise de conscience et cette sorte de passion, en particulier de la jeune génération, d'essayer de réparer le monde. Et donc, c'est vraiment action-réaction, enfin. Et cette exposition, évidemment, elle est traversée par cela, à travers un certain nombre d'œuvres.
Oui,
et
puis il y a l'artiste Nicolas Darroux, par exemple, qui a œuvré comme un entomologiste, hein, avec sa collection d'insectes. À un moment, on se dit, mais ça date de quand? Alors, c'est réalisé en 1998, mais cette façon de témoigner, par exemple, qu'il a de mettre en scène des insectes et sur des pics, ben, comme un entomologiste, mais d'en faire une œuvre d'art pour nous interpeller sur le bouleversement du monde et la manipulation des insectes, c'est ça?
Oui, alors lui, c'est un bon exemple, puisque Nicolas Darroux, il s'intéresse aussi à la robotique et à la condition à la fois animale, mais également à la condition humaine. Et donc, c'est un artiste très, très pluriel qui s'intéresse évidemment à toute cette... Il est dans cette tradition dont il plaisante un petit peu, parce que cette tradition d'entomologiste, elle existe depuis longtemps, évidemment, mais il la détourne pour attirer notre attention sur justement cette façon de d'épingler les animaux. Ça a un petit côté à la fois humoristique, mais un peu aussi sarcastique, mais assez terrible, évidemment. C'était quelque chose, les cabinets de curiosité, par exemple, c'était on voit encore ça, vous voyez la naturalisation des animaux, les animaux naturalisés, c'est quelque chose que les jeunes gens aujourd'hui regardent ça avec horreur. Ils se demandent qu'est-ce que c'est que ces animaux naturalisés, empaillés, etc. Enfin, alors qu'avant, c'était quelque chose qui paraissait complètement normal, enfin, dans les salons et ailleurs.
Oui, puis on faisait œuvre d'histoire naturelle à l'époque de cette façon-là. C'est un peu ce qui vous caractérise, Michel Basson, en travaillant en sculpteur et non en taxidermiste, mais malgré tout avec une grande connaissance anatomique. Je précise que vous avez même travaillé avec des scientifiques, hein, comme la primatologue Sabrina Krief, par exemple, marraine de votre prochaine exposition, Fragile Colosse, et un parrain aussi, hein, Jacques Weber. Pas mal quand même, hein, l'acteur-réalisateur. Là, vous êtes bien entouré, hein, on le sent, hein, Michel Basson-Pierre. Une exposition, je le précise, pour ceux qui seraient intéressés, qui se tiendra du 1er février au 31 mars prochain, proposée dans le quartier Haussmann à Paris, et aussi donc 11 œuvres, je crois, dans la rue et 3 au théâtre Mogador. C'est ça. Voilà, ces œuvres colossales. En tout cas, on sent que vous êtes ce maître du mouvement grâce à l'art de l'observation. Et allez, on dévoile quand même des choses sur votre façon de faire. C'est que vous pratiquez aussi l'observation dans des lieux de prédilection et donc de préservation de grands animaux sauvages, hein, comme des zoos. Alors, un zoo en Vendée, je crois, et puis il y a le zoo de la Boissière du Doré en Loire-Atlantique.
Là, on a la chance, on est sur des lions qui sont quand même très très actifs. L'enclos a été enrichi avec plein de systèmes, des branches, des points de vue différents, des rochers, le terrain est très très accidenté. Et nous aussi, on met des enrichissements olfactifs dans le parc, on met des enrichissements alimentaires dans le parc. Et l'idée, c'est vraiment que ces lions, et on le voit bien, découvrent tout l'enclos.
Ah oui, c'est magique de voir ça effectivement en vrai, là devant nous, et pas à la télé. Après, c'est étrange de les voir ici et pas dans leur savane, quoi. Voilà. Mais ils sont protégés.
C'est vraiment super. Il y a de l'espace, donc ils sont vraiment en liberté.
C'est quand même luxueux, hein, pour le oiseau local, régional. C'est très bien.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
On peut dire que l'observation, ça vous rassemble peut-être, hein, Michel Bassompierre et Laurence Bertrand d'Orléac, parce que, autre confidence, hein, Laurence Bertrand d'Orléac, on peut dire à nos auditeurs que vous êtes en train de travailler actuellement sur les lions, justement.
Sur les représentations des lions. Mais je suis obligée de faire comme Michel, d'en passer par le lion.
Et d'aller les voir.
Voilà, lui crée les représentations et moi ensuite je les observe. Donc c'est une double observation. Et parce que je veux savoir, je veux essayer de comprendre au fond quand un artiste, qu'est-ce qui se passe entre l'artiste et l'animal avant et pendant la représentation. Alors j'ai été observer les dessins de la croix, par exemple, au Louvre, tout à l'autre jour, et de lions, justement. Et alors, c'est intéressant parce qu'il voyait les lions, il allait voir les lions, donc au Jardin des Plantes, quand ils étaient vivants, mais aussi quand ils étaient morts, hein, parce qu'il fallait qu'ils comprennent aussi ce que c'était qu'un lion. Comment on connaissait un lion? C'était compliqué quand on faisait pas de safari à l'époque. Et quand on sait que quand il est parti au Maroc, il a probablement jamais chassé le lion, contrairement à certains. Enfin bref, c'est un animal qui m'intéresse beaucoup et c'est très fascinant du point de vue à la fois historique, de symbolique et puis dans la relation avec l'imaginaire humain du gouvernement, du bon, du mauvais gouvernement, de la sauvagerie, de la non-sauvagerie. Ça m'amusait d'entendre parler de liberté quand on parle de zoo. Alors certes, le zoo de Vincennes, c'est un zoo où il y a beaucoup plus d'espace, les rochers sont chauffants pour les animaux, mais on est quand même encore en captivité. Enfin, tout ça est une mise en scène, une extraordinaire mise en scène.
Alice Audin, je crois que vous voulez réagir.
Oui, alors c'est drôle parce que j'ai exposé une artiste qui est vraiment la grande artiste de la cause animale, qui s'appelle Lynn Messaed, et qui, elle, refuse d'une certaine façon de représenter les animaux qui nous auraient déjà conquis. Elle a, donc, dans mon exposition, j'ai présenté une hyène. Moi-même, je fais partie de ces êtres humains qui ont tous les stéréotypes les plus idiots vis-à-vis des hyènes, qu'on trouve a priori, laides et méchantes, ce qui est dramatique en termes de projection. Et elle nous montre qu'en fait, c'est un modèle de matriarcat, parce que vous parliez aussi du, et que nous avons énormément à apprendre d'elle. Et je pense que les artistes, en s'intéressant à des animaux qui appartiennent à ce même règne, sont très intéressants aussi quand ils débusquent nos propres a priori et nous donnent des enseignements sociaux.
Michel Bassompierre, vous avez envie de réagir peut-être? On a parlé beaucoup de choses. Là, c'est les lieux aussi, et un lieu que vous connaissez. Alors, on parlait de liberté, même si ce n'est pas une totale liberté. On parlait de l'observation.
Bon, c'est vrai que ce n'est pas la panacée, le zoo. Mais c'est vrai, on discutait de ça avec Rémi Marion, qui est un cinéaste. Il fait énormément des ours blancs, l'ours brun, tout ça. Ouais. Et il poussait les hauts cris vis-à-vis des zoos. Mais je dis, mais s'il n'y a plus de zoo, comment vont faire les artistes? Bon, en plus, on disait dans le temps que les artistes couchaient avec leurs modèles. Bon, ben, je ne suis pas encore réduit à ce point-là. Par contre, c'est vrai que le zoo permet d'approcher, d'être très proche de l'animal, et ça permet de comprendre un petit peu sa morphologie. Ça change évidemment, c'est pas du tout le squelette. On a besoin de connaître le squelette, mais on a besoin de connaître aussi tout son modelé, toute sa forme, tout ça. Et c'est important. Et puis quand il se déplace, alors c'est vrai quand on le voit se déplacer, moi je me sers beaucoup de séquences cinématographiques. On voit l'animal qui se déplace, c'est le fait de le voir se déplacer. Je comprends son volume, ses plans, tous ces éléments qui me servent. Donc, c'est pour moi le zoo quand même relativement important, surtout qu'actuellement ils font d'énormes efforts pour que les animaux soient à l'aise, soient pas en cage. Par contre, des animaux qui étaient dans les cirques dans le temps, c'était des petites cages et ils étaient martyrisés pour faire du spectacle, c'était pas drôle. Mais là, non, je pense que les zoos font tellement tout ce qu'ils peuvent. Et puis, bon, l'animal, c'est vrai que un individu qui naît en prison, c'est pas ce que c'est que la liberté. C'est peut-être la même chose pour l'animal. Il naît, bon, il attend l'heure. Maintenant, il a pas de montre, mais il sait à quelle heure il va être nourri, et ainsi de suite. Ça devient un fonctionnaire de la vie sauvage. C'est pas, donc, je n'ai pas d'avis à y mettre là-dessus, quoi. Mais c'est vrai que, je suis allé, au Kenya, voir dans la Maasai Mara, par exemple, les animaux, et vu d'au-dessus, quand ils ont ces immenses plaines avec toute cette arche de Noé qui s'est ouverte, et puis tous les animaux, c'est vraiment merveilleux, c'est la genèse. Et là, on sent que l'être humain n'est qu'un petit singe debout qui fait partie de ce monde-là. Et c'est pour ça que je dis toujours « mon frère animal ». Et quand on dit que mes sculptures, il y a de l'humour, ben oui, parce que j'ai un copain qui pose pour moi, c'est un ours, c'est un cheval, c'est un éléphant d'Asie qui est très rond, et ainsi de suite, ce sont des copains en quelque sorte.
Et on sent que, au-delà de l'humour, hein, votre œuvre, quand même, Michel Bassompierre, nous interpelle aussi, nous sensibilise à ces animaux qui sont souvent en danger. Vous êtes dans le beau, pas dans le sang et dans l'horreur, mais vraiment la restitution du beau et de la douceur. Mais ces animaux que vous sculptez, Michel Bassompierre, ils sont aussi en danger de mort.
Ils ne sont plus que 5000 en Afrique, 5000 gorilles de l'Est à l'état sauvage. En 20 ans, 70% de la population des gorilles des plaines orientales a disparu. Ils sont désormais en danger critique d'extinction.
Nous faisons disparaître certains de nos plus proches parents. 4 espèces de ces grands singes sur 6 sont en danger critique. Les 2 autres sont gravement menacés d'extinction.
Même si en République démocratique du Congo, les trafiquants sont poursuivis, la chasse illégale reste le principal danger pour les gorilles des plaines et des montagnes.
Il y a une tradition dans certaines tribus du Congo selon laquelle la viande de gorille est pour les hommes importants. Si vous êtes un officier de l'armée et que vous recevez des invités de marque, c'est une obligation de servir une viande de prestige.
En Asie, les orang-outans de Bornéo et de Sumatra sont eux aussi directement menacés. La déforestation et l'agriculture détruisent leur habitat naturel. À l'inverse, les 2000 pandas géants respirent un peu mieux. Ils étaient en danger, ils ne sont plus que vulnérables. Les programmes de protection et de prêt à des zoos du monde entier ont eu un impact positif.
Avec le changement climatique et l'augmentation de la population humaine, et donc des besoins de l'agriculture, il nous faut continuer ces programmes de sauvegarde et pour longtemps.
Reportage diffusé sur France 3 le 5 septembre 2016. Michel Bassompierre, Alice Audouin, Laurence Bertrand d'Orléac, peut-être en tout cas une réaction. Quelle solution pour ces animaux en péril? Est-ce que le monde de l'art, les artistes, peuvent peut-être faire quelque chose, ou en tout cas, ou œuvrent déjà, Alice Audouin?
Je vais citer 2 exemples. Thomas Saraceno, donc, qui co-crée avec des araignées, a créé le mouvement Arachnophilia. Avec beaucoup de collaborations scientifiques, certaines actions qui peuvent paraître amusantes, mais quand même symboliques et intéressantes, comme le fait d'inviter les musées à ne plus détruire les toiles d'araignées, et surtout à changer le regard sur l'araignée. Je parlais de la hyène tout à l'heure, on a quand même beaucoup d'animaux qui disparaissent. Alors là, on parle d'animaux importants qui disparaissent, mais il y en a aussi pour lesquels leur disparition nous laisse assez indifférents. Et donc, cet artiste sensibilise aux araignées. Je pensais à Suzanne Husky. Suzanne Husky qui a fait un très gros travail sur les castors. Les castors qui avant peuplaient, vous le savez, toutes nos rivières et qui a fait une exposition récemment en imaginant le scénario des incendies en Gironde s'il y avait eu des castors. Et propose justement de réveiller un peu la mémoire locale et de mobiliser les citoyens pour faire revenir les castors. Vous avez énormément d'initiatives d'artistes sur le terrain liées à la représentation qu'on peut avoir des animaux ou à leur à une forme de cohabitation. Et voilà, en histoire de l'art, on se souvient de Joseph Beuys qui a cohabité avec ce coyote, hein, qui posait aussi cette question de la coexistence. Beaucoup s'intéressent aussi au loup. On a aujourd'hui un travail d'artiste qui prône ce qu'on appelle la coexistence, une relation interespèces, beaucoup plus, voilà, j'ai envie de dire, c'est pas un mot très joli, gagnant-gagnant.
Michel Bassompierre, alors vous avez dit, hein, vous êtes un ours, hein. Alors c'est un compliment finalement, non? Un ours qui aime la musique aussi.
Oui. Ben oui. C'est marrant parce que mon père était musique classique et ma mère musique du monde. Ce qui fait que j'étais, mon père, ben c'était la musique classique qu'il nous mettait, ma mère trouvait toujours des disques. Je me rappelle des chants polyphoniques pygmées, par exemple. Elle récupérait ça à Paris, à Boulevard Raspail. Il y avait une boîte, la boîte à musique, et il y avait la musique ethnographique, tout ça. Et donc, on a eu cet éventail de toutes les musiques du monde et la musique classique, la grande musique, paraît-il, mais en été, je me dis toujours si avec des musiciens sur Terre, il n'y aurait plus jamais de guerre. Parce que les gens, c'est une démonstration du génie humain et de tout ce qui est beau. Chez les peuples, même les plus primitifs, tout le monde est sensible à ce qui est beau. Et c'est ça. Le jour où on comprendra que ce qui est beau vaut plus, infiniment plus que tout le reste, ben, je pense on sera devenu presque intelligent, quoi. Il faut arrêter de se montrer aussi des petits enfants égoïstes, ne pas détruire notre nature, elle nous appartient pas. On n'est que des petits singes de passage sur Terre et on n'a pas le droit de tout détruire.
Alors le beau à travers l'art, le beau à travers la musique, et ce soir vous avez décidé de nous faire écouter donc votre choix musical, Canned Heat, qui chante On the Road Again, et il y a peut-être une raison particulière, une petite confidence quand même.
Oh ben c'était l'époque où j'étais au Beaux-Arts, ça c'est cette époque-là.
Donc fin des années 60, c'est ça?
66.
Donc ça voilà, bon ben les souvenirs d'étudiants de Michel Bassompierre.
Down that long old lonesome road all by myself.
C'était Kenneth Heath qui chantait On the Road Again et c'est le choix de Michel Bassompierre dans le magazine de l'environnement de France Culture de Cause à Effet. Nous sommes en direct et nous nous intéressons aux artistes au service de la planète, au monde de l'art et à son engagement pour le vivant et aux défis à relever dans cette ère de l'anthropocène. Avec nous, donc, Michel Bassompierre, artiste sculpteur animalier connu pour ses œuvres colossales, Laurence Bertrand d'Orléac, historienne de l'art, professeure des universités à Sciences Po et chercheuse au Centre d'Histoire, directrice de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, et puis Alice Audouin, présidente fondatrice de l'association Art of Change 21, commissaire d'exposition et consultante en développement durable en lien avec l'art. Mais tout de suite, comme d'habitude, on reprend les habitudes en cette année 2023, direction la rédaction des pages Planète du journal Le Monde, notre partenaire média, et dans l'actualité qui touche bien sûr à l'environnement, c'est Stéphane Mandard qui est notre œil du monde Planète, pour un article sur l'interdiction du jetable entrée en vigueur pour les fast-foods, mais qu'en est-il réellement ? Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Aurélie. Oui, ne boudons pas notre plaisir de démarrer 2023 par une bonne nouvelle. Exit les cornets de frites, les cartons de burgers ou les gobelets pour le soda qui finissent à la poubelle, place à leur version réutilisable. C'est mise à la transition écologique Christophe Béchu qui le dit, le jetable dans les fast-foods, c'est vraiment fini. Une référence à l'interdiction de la vaisselle jetable, vous l'avez dit, dans la restauration rapide, pour les repas pris sur place. Une mesure pionnière en Europe, entrée en vigueur le 1er janvier. Une nouvelle étape sur le long chemin vers la sortie du plastique à usage unique, fixée à l'horizon 2040 par la loi anti-gaspillage de 2020, après l'interdiction des pailles ou des couverts jetables.
Mais alors, est-ce que l'on sait quelle quantité de déchets devrait permettre d'économiser cette nouvelle loi ?
Alors, il faut savoir que les grandes enseignes de restauration rapide servent environ 6 milliards de repas par an. Selon les estimations du gouvernement, la mesure devrait ainsi permettre d'éviter de jeter 20 milliards de couverts, gobelets, assiettes et autres contenants à usage unique. Ça représente environ 150 000 tonnes de déchets par an. Pour vous figurer une image pour vos auditeurs, c'est l'équivalent de 15 tours Eiffel de plastique et de carton. En France, McDonald's générerait à lui seul près d'un kilo d'emballage jeté par seconde. Oui, par seconde, pas par minute, par seconde.
Impressionnant. Mais alors Stéphane, est-ce que c'est vraiment fini, comme le dit le ministre de la Transition écologique ?
Alors, pour en avoir le cœur net, quand la plupart des Français suivaient mon regard, digéraient encore les huîtres et le chapon du réveillon, prenant mon courage à deux mains, j'étais sur le terrain à écumer les fast-food direction Porte Dorée dans le 12e arrondissement à Paris. En ce premier jour de l'année, les familles ont l'embarras du choix. Le McDonald's et le Burger King se font face, serrés de près par un geladal, dernier né des fast-food et déjà une cinquantaine de restaurants en France. Pour illustrer, je cite, les changements qui sont à l'œuvre, Emmanuel Macron avait retweeté une photo d'un plateau McDo avec le coca dans un élégant vert et les frites dans un contenant en plastique rouge, reprenant le design du très reconnaissable cornet de la marque américaine. Le cliché n'a visiblement pas été pris au McDo de la Porte Dorée. En salle ce 1er janvier, toute la vaisselle est jetable. Nous ne sommes pas encore prêts, admet le manager. Même constat en face chez Burger King. C'est en cours, mais on va devoir tout casser pour installer un lave-vaisselle, souffle la manageuse. Au geladal d'à côté, le chef d'équipe n'est même pas au courant de la nouvelle réglementation. Hormis les plateaux, ici, tout est jetable, reconnaît-il.
Donc on peut dire que la fin de la vaisselle jetable, ce n'est pas pour tout de suite.
Pas vraiment. McDo assure que 90% de ses restaurants devaient être prêts au 1er janvier, mais pas mal d'enseignes semblent ne pas avoir anticipé la mesure, pourtant prévue par la loi depuis 2020. Pour ne prendre que cet exemple, certains établissements n'ont toujours pas fait les travaux pour installer la vaisselle. Pas toujours simple, il est vrai, quand les cuisines sont millimétrées. Au-delà des délais de mise en place, la mesure suscite d'autres interrogations quant à son efficacité. Première limite, l'obligation de la vaisselle réutilisable ne s'applique que pour les consommations prises sur place. Or, la vente à emporter peut constituer jusqu'à 70% du chiffre d'affaires de certains fast-foods. Autre faille, la mesure concerne les établissements pouvant accueillir au moins 20 convives. Elle exclut de facto de nombreux commerces et certains petits restaurateurs pourraient être tentés de jouer sur la jauge de leur couvert pour contourner l'obligation. Enfin, l'interdiction de la vaisselle jetable ne va pas mettre fin au tout plastique. Au contraire, les géants de la restauration rapide ont tous opté pour des contenants en plastique. Or, ces contenants n'ont souvent de réutilisables que le nom. Soumis à des lavages incessants, Leur durée de vie n'excède pas un an. D'autant que chez McDo, là où les nouveaux cornets de frites ont déjà été testés, les clients ont tendance à repartir avec.
Merci Stéphane Mandard pour ce reportage de terrain.
J'espère que vous y étiez.
Et pour retrouver votre article sur ce sujet et puis les autres articles commis par vous-même, Stéphane, et bien direction notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et où vous trouverez le lien du site du journal lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
La plupart du temps, tout commence avec une frustration. Quand je lis le rapport d'un scientifique, pourquoi je n'étais pas au courant? J'aurais dû le savoir. Et le monde entier aurait dû le savoir. Mon cerveau se met en activité sur le terrain artistique, mais aussi sur le terrain scientifique. Et tout cela se met en forme pour transformer les données et les études en une installation artistique qui te fait ressentir les choses à nouveau. C'était la voix de Tige Bierstecker. Et je me tourne tout de suite vers vous, Alice Audouin, parce que c'est un artiste que vous connaissez bien, un artiste néerlandais, très engagé, à qui l'on doit l'œuvre Econario, qui est vraiment une œuvre qui a fait parler d'elle tout récemment. C'était à la COP15 de la biodiversité, donc la COP15 à Montréal, en décembre 2022. Une œuvre spécifique, une plante robot qui grandit quand la biodiversité, enfin, s'accroît, quand les enjeux, en tout cas au cœur de la COP, quand les accords permettent de sauver un peu plus la biodiversité, ou alors qui flétrit si les décisions ne sont pas à hauteur de cette planète. Cet artiste, on peut dire que c'est un des plus engagés, peut-être?
En tout cas, c'est un artiste qui a une dimension pédagogique extrêmement puissante. Il était dans Nous les arbres. C'est lui qui avait révélé justement la réaction d'un arbre de façon visuelle. Moi, je l'ai exposé sur la déforestation. Il avait imaginé une mécanique qui permettait de comprendre le rythme de la déforestation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il a un partenariat avec l'UNESCO. Il a été financé aussi par LVMH. Quand moi, j'ai présenté LVMH pour financer son œuvre, il a dit « Ah mais j'ai des questions à poser, moi je veux pas faire du greenwashing ». Il fait partie de ces artistes qui changent aussi la donne en matière de mécénat, et ça c'est intéressant. Et en tout cas, toutes ces œuvres permettent de comprendre de façon quasi instantanée le problème posé. Après, c'est une manière, c'est un champ de l'art contemporain qui, je vais dire, est peut-être le plus scientifique, pédagogique. Il y en a bien d'autres.
Oui, on peut penser à Olafur Eliasson, non?
Le parrain de mon association, oui.
Mais oui, alors zéro avion, il fait en sorte de limiter son impact. Et il est ambassadeur du programme des Nations Unies pour le développement, enfin le développement durable, c'est ça ou
Alors, du PNUD, et c'est un ambassadeur des ODD, des fameux objectifs du développement durable.
C'est ça.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est impliqué aussi dans Little Sun, qui est la production de petites lampes solaires, qui donne aussi une autonomie énergétique. Personne n'a atteint le zéro avion. C'est-à-dire que là, vous soulevez la question justement au-delà du thème de travail, de l'impact.
De l'empreinte
fait,
environnementale.
C'est-à-dire, pour faire une exposition, est-ce qu'on fait voyager? Moi, dans l'exposition Nova Scène, dont j'ai été co-commissaire, j'ai réussi à faire une exposition internationale avec zéro avion. Donc, c'est possible d'avoir des protocoles pour monter des œuvres. Alors là, je vois justement Laurence qui me regarde, qui me dit « Mais comment je vais avoir mon œuvre de la Renaissance ?» Voilà. Il faudra aller jusqu'à la copie. Je ne sais pas comment justement résoudre ça pour
les
œuvres non contemporaines.
Oui, parce que les musées échangent des œuvres quand on monte des expositions.
Mais il y a souvent beaucoup plus de transport justement dans ces cas-là. Et en effet, la question, et j'en reviens à Tige Bierstecker, c'est le premier artiste qui a imaginé, quand on découvrira son œuvre dans l'avenir, une sorte de petit mode d'emploi pour la recycler, c'est-à-dire intégrant l'éco-conception de l'œuvre à tous les niveaux. Voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense que l'éco-conception, avance, et moi-même, mon association, lance un prix, remet à 12 lauréats un prix, là, le 10 janvier au Palais de Tokyo, des artistes qui s'engagent en matière d'éco-conception. On sépare aujourd'hui, et ça concerne justement tous les artistes, l'impact qu'on peut avoir. Anthony Gromley a été un des précurseurs hein, en termes d'engagement. Les anglo-saxons sont souvent avant nous d'ailleurs sur ces sujets. Mais en tout cas, oui, comment aujourd'hui avoir une carrière internationale d'artiste sans prendre l'avion? C'est un casse-tête. Voilà, c'est un vrai casse-tête aujourd'hui.
Laurence Bertrand d'Orléac, on sent que c'est une préoccupation, hein, cette question d'empreinte environnementale du monde de l'art. Et donc, ça pose ces questions aux musées, aux galeries, aux expositions. Est-ce que vous le percevez, ça, concrètement? Que là, la question, elle est là, elle est prégnante. Et que, bah, potentiellement, au-delà de se poser des questions, ça peut engager peut-être une autre façon de faire de l'art. Et d'exposer aussi, ou de proposer des œuvres.
Oui, évidemment. Évidemment, j'ai l'impression, non pas d'avoir organisé la dernière grande exposition internationale où les œuvres ont pris l'avion, mais il s'est passé quelque chose, il est en train de se passer quelque chose. Bon. Et après tout, on peut imaginer des expositions sous d'autres formes, enfin, et avec des circuits plus courts, etc. Il faut simplement avoir un peu plus d'imagination. Il ne faut pas vouloir accumuler les chefs-d'œuvre du monde entier. Il faut réfléchir un peu à tout ça. Les musées réfléchissent, le Louvre réfléchit depuis longtemps avec le bilan carbone, bien sûr, mais c'est pas suffisant certainement. Mais on est enfin, tous les musées commencent à réfléchir ça et sont dans une dimension. Il y a une dimension d'écologie politique dans les musées comme ailleurs. Et c'est bien parce qu'encore une fois, je pense que ça nous forcera à avoir plus d'imagination. Vous voyez, par exemple, faire une exposition thématique, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus faisable à l'échelle locale. Plutôt qu'une exposition monographique où très souvent les œuvres, vous voyez, d'un artiste unique, en fait, sont aux quatre coins du monde. Bon, alors, là, consiste à récupérer toutes ces œuvres. Bon, moi, ça m'a jamais énormément intéressé, évidemment, ce type d'exposition. Mais pas une exposition sur un thème particulier. Oui. Vous voyez, on peut le réfléchir. Il y a vraiment une géométrie variable extraordinaire. Donc, j'en accepte l'augure. Enfin, je suis prête à tenter justement des expériences de ce point de vue-là qui pourraient être vraiment intéressantes.
Rapidement,
les musées, le développement durable est une chance pour les musées. Ils ont été sous pression de faire des expositions événements avec des surenchères, justement tel que vous en parliez, au détriment des collections permanentes, au détriment d'un rapport aussi au temps. Si les musées regardaient déjà tout ce qu'ils ont en matière d'enseignement pré-carbone, à nous donner, nous pourrions déjà faire beaucoup de choses. Et c'est justement une chance de sortir un peu du temporaire pour repenser la fonction d'un musée. Bruno Girvaud, faut vraiment le citer, Palais des Beaux-Arts de Lille, c'est un des premiers pour son expo Goya à dire « j'arrête les expositions avec 300 tableaux, je fais une expo Goya avec 40 tableaux ».
Michel Bassompierre, est-ce que vous sentez, ou vous êtes vous-même d'ailleurs préoccupé par cet impact potentiel, hein, soit de vos œuvres? Alors, on n'a pas parlé des matériaux, hein, je ne sais pas si vous utilisez des matériaux ultra polluants ou pas d'ailleurs, vous travaillez avec le marbre, le bronze, fonderie. Alors d'abord, le dessin, ensuite le travail à partir de la terre, ensuite les plâtres, ensuite le marbre ou le bronze, et tout ça avec des fonderies qui vous suivent depuis longtemps.
Oui, ben je dirais qu'à travers l'histoire, quand les armées avaient des conflits, ceux qui étaient gagnants fondaient les canons des eaux de l'ennemi pour faire des sculptures. Et quelques temps après, quand c'était les autres qui gagnaient, ils fondaient des sculptures pour faire des canons. Bon, moi.
Il y avait du recyclage déjà.
Donc
mais
le bronze
pas forcément
servait,
pour les bonnes raisons.
Oui, il était en alternance, soit des canons, soit des.
C'est ça.
Bon, moi, les sculptures que je fais, les bronzes. Bon, normalement, le bronze, il est fait pour durer 1000, 2000, plus, si possible. Alors, il a sa petite empreinte carbone. Il a son empreinte carbone, c'est vrai. Le marbre, moins, même s'il faut tailler dans les carrières là-bas à Carrare.
Oui.
Et c'est vrai que quand on voit l'état des montagnes depuis l'époque romaine, on se dit, oh là là, ils ont drôlement taillé dedans. Mais en même temps, bon, Mes sculptures, elles ne sont pas là pour faire la guerre, même si elles ont un coût. Elles ne sont pas là. Elles sont là pour démontrer. Mon idée, c'est montrer ce qui est beau, faire du beau, parce que pour moi, c'est la raison d'être, le beau. Même si je ne suis pas du tout à la mode, ce n'est pas grave. Je resterai un dinosaure et je mourrai dans la mocheté d'un vieux dinosaure, mais en croyant toujours à mes rêves.
Mais faire du beau, c'est sensibiliser aussi, interpeller les consciences, Michel Bassompierre. Et donc, ça peut être une action aussi dans ce siècle marqué par le réchauffement climatique et l'ère nommée anthropocène. Laurence Bertrand d'Orléac, ça me permet de vous embarquer dans les dernières minutes sur cette notion d'écocide. Hein, parce que vous parlez aussi de la nature morte, qui n'est pas morte, elle n'est jamais morte. Vous mentionnez le travail de Philippe Descola dans votre livre, donc en prologue d'ailleurs. Et parce que vous dites, il montre combien il faut regarder ce vivant autrement. Et voire même donner un statut juridique à ces choses. Est-ce que cette notion d'écocide, ça c'est au cœur de vos réflexions ?
Oui, forcément, mais je ne suis pas la seule, mais je suis complètement, je suis d'époque. Je ne sais pas si je suis un dinosaure d'époque. Mais non, on est imprégné par cette idée d'écocide, bien sûr. On est presque obsédé par ça maintenant, mais on arrive à trouver, disons, des manières de vivre aussi avec cette cauchemar en tête, mais on en fait quelque chose. La différence, peut-être, c'est quand je plains justement les jeunes aussi, parce qu'ils sont à un âge où ils n'ont pas forcément encore trouvé les formes pour exprimer, disons, ce désespoir autrement que par des actions qui sont plus ou moins réussies. Celle de Greta, on sait qu'elle a trouvé comme une performeuse une forme pour exprimer son anxiété. C'est pas toujours le cas. Je suis à un moment, disons, où j'arrive aussi à donner une forme, disons, à cette réflexion et à cette anxiété.
Alice Audouin.
Mais j'avais envie de faire le lien entre les canons, le bronze, votre magnifique exposition, en pensant à Courbet, la colonne Vendôme. Courbet qui écrit bien avant la Commune au ministère en disant « faut enlever cette horreur dans son symbole », qui est rattrapé par la Commune, qui va la faire tomber et qui va faire ses truites, donc aussi comme symbole, et qui, comme on le sait, décédera juste avant le paiement d'un remboursement, impossible à rembourser et exilé. Voilà, j'avais envie de faire ce lien parce que vous avez mis les truites de Courbet. Elles montrent sans doute la position de l'artiste dans toute sa valeur. Courbet est un très grand enseignement encore aujourd'hui.
Michel Bassompierre, vous avez 30 secondes pour nous livrer quelque chose. Vous qui êtes un ours, mais je sens bien que vous avez encore des choses douces à nous dire.
Oulala.
Le mot de la fin, c'est toujours plus compliqué.
Oui, surtout, c'est très compliqué.
Surtout pour un ours.
Je dirais à la jeunesse qu'il faut garder l'espoir. Nous les vieux, on n'est pas forcément responsables de tout. S'ils ont moins de maladies, moins de ceci, moins de cela, mais ils ont tous des portables et tout ça. C'est quand même grâce à ces vieux dinosaures qui ont connu des nuits froides avec des maisons sans chauffage, des choses comme ça.
Donc, œuvrons ensemble.
Il y a du confort. Le confort a un prix, il faut savoir. Peut-être moins de confort. Et puis, partager, parce que la vie, la nature et tout ça, c'est le partage. On doit vivre avec les autres.
Merci à vous. Merci à tous les trois. Et à vous, Michel Bassompierre. Bien sûr, je rappelle le titre du très beau livre qui raconte votre vie et votre œuvre. Michel Bassompierre, monographie, un livre édité chez Albin Michel. Laurence Bertrand d'Orléac à découvrir votre livre Pour en finir avec la nature morte, paru chez Gallimard. Le livre aussi de l'exposition Les choses, une histoire de la nature morte. Et puis l'exposition Allez voir au musée du Louvre jusqu'au 23 janvier. Alice Audouin, le site de l'association Art of Change 21. Et puis on peut conseiller l'exposition Art orienté au domaine de Chamaronde. Bibliographie, liens et tous les dossiers augmentés sont à votre disposition sur le site franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Téléchargement, réécoute à votre disposition. Merci à tous.